Radio Okapi.
Le journal Belinda Bousoum. La population de Buera, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, appelée à la vigilance et a dénoncé tout suspect dans leurs entités. Appel lancé hier par le commandant contingent UPDF au lendemain du massacre de 37 écoliers du lycée Lubiria en Ouganda. Dégradation des conditions de création des entreprises en RDC. Le président de la République a exprimé son inquiétude à ce sujet. Ceci ressort du compte-rendu du Conseil des ministres de vendredi dernier. Le chef de l'État s'est appesanti de nouveau sur la situation inquiétante du guichet unique de création d'entreprises. Félix-Antoine Tshisekedi a donné des orientations pour une solution rapide à suivre dans ce journal. Et puis, en marge de la présidentielle de décembre en RDC, une cinquantaine des journalistes ont suivi hier à Mbandaka une formation sur les questions relatives à l'éducation électorale. Pour en parler, nous recevons le secrétaire exécutif de l'Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur, AMASEC en sigle. Madame, Messieurs, bonjour. L'armée ougandaise appelle la population de Buera à la vigilance et à dénoncer toute personne suspecte dans leurs entités. C'est le commandant contingent UPDF engagé conjointement dans les opérations contre les EDF dans les régions d'Irumu en Ituri et Beni au Nord Kivu qu'il a dit samedi au cours d'une adresse à la population. C'était au lendemain du massacre de 37 écoliers du lycée Lubiri à Mpongwe, région ougandaise frontalière avec la République démocratique du Congo. Des hélicoptères des combats ont été déployés pour traquer ces rebelles dans le parc de Virunga. Récit de Martial Kizabiamungu.
C'est avec beaucoup de compassion que le général-major Duke Olum, commandant du contingent UPDF dans les opérations conjointes avec le FRDC pour la traque des ADF, s'est adressé à la population de Buera. Ce haut officier a expliqué à la population que les auteurs de l'attaque contre le lycée Lubiria causa la mort des 37 écoliers avec plusieurs blessés a été menée par des islamistes des ADF qui connaissaient bien l'emplacement du dortoir des élèves. Tout a rassuré la population de Buera que l'armée ougandaise a déployé ses hélicoptères de combat pour non seulement traquer ces rebelles des ADF dans les prolongements du parc de Virunga où ils se sont retirés mais aussi chercher à obtenir la libération des otages. Le général-major Dick Olum demande à la population d'être très vigilante et de dénoncer auprès des services de sécurité toute personne suspecte. L'un des membres des familles des victimes joint au téléphone depuis Buera déplore ce qu'il qualifie de la défaillance des services de sécurité ougandais pour n'avoir pas empêché ces tueries de masse. Ce dimanche matin, le président Museveni vient d'envoyer un membre de son gouvernement sur place à Buera pour apporter une assistance aux familles des victimes. Goma, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Justement, après cette attaque rebelle attribuée aux EDF d'une école dans une localité de l'Ouganda, voisine de la cité congolaise de Kasindi, les FARDC se disent en alerte pour la sécurisation de cette cité frontalière et ses habitants. Ainsi, des opérations de traque contre ces rebelles sont en cours. L'armée affirme que c'est pour empêcher que ces derniers s'attaquent aux populations du côté de la frontière congolaise. Le porte-parole des opérations Sokola Un Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, qui l'a dit ce dimanche à Radio Kapi, ajoute que le commandant du secteur opérationnel est sur place pour se rassurer du bon déroulement de ces opérations. Le capitaine Anthony Mwalushai, joint au téléphone par Guylaine Kassassia.
Après l'attaque macabre des terroristes ADF-MTM en Ouganda, nous, en tant que secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, nous avons pris des dispositions sécuritaires pour sécuriser davantage la cité frontalière de Kasindi. Dans la nuit du samedi à ce dimanche, les terroristes qui ont commis des dégâts en Ouganda voulaient traverser à la frontière vers le Congo. Et nos militaires qui étaient au niveau de la frontière ont riposté farouchement et ont empêché l'ennemi de traverser vers notre territoire. Donc nous sommes déjà sur place à Kasindi au moment où je vous parle pour poursuivre cet ennemi et empêcher l'ennemi de traverser cette frontière entre la RDC et l'Ouganda et pour s'infiltrer dans le parc national de Virunga. Donc le commandant secteur avec son état-major est sur place pour se rassurer que les opérations de traque contre ces terroristes dans la cité de Kasindi et ses environs évoluent très bien sur terrain.
Par ailleurs, plusieurs réactions sont enregistrées à travers le monde à la suite de cette attaque des EDF dans une école en Ouganda. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque abominable qui a causé plusieurs dizaines de morts et des blessés, selon la déclaration de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La France adresse ses condoléances aux familles et aux proches des victimes, aux autorités ougandaises et exprime sa solidarité aux blessés. Il n'y a pas de mots pour le choc ni la condamnation assez forte pour exprimer mon horreur face à l'attaque terroriste brutale et lâche par des terroristes présumés de l'EDF, a écrit sur Twitter le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour sa part, a également condamné avec force cette attaque, a indiqué un de ses porte-paroles. Les responsables de cet acte effroyable doivent être jugés, a déclaré Farhan Haq. Antonio Guterres appelle également à la libération immédiate des personnes enlevées par la milice islamiste, a-t-il ajouté. L'Union européenne a aussi fermement condamné cette attaque. Pendant ce temps, en Ituri, les FARDC ont lancé depuis samedi matin l'offensive contre le groupe armé Codeco dans le village de Petro et sa périphérie dans le territoire de Djougou. Selon des sources militaires, au moins 7 localités occupées par cette milice sont récupérées par l'armée congolaise. Le porte-parole des FARDC en Ituri précise que l'objectif de ces opérations est de mettre fin à l'activisme de ce groupe armé cité dans le meurtre la semaine dernière de 46 déplacés du site de Lala dans le territoire de Djougou. Isaac Remoyope. Reportage.
Les combats se déroulent depuis samedi matin entre les FARDC et la milice Codeco vers les villages de Petro et de Golo, à environ 80 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Des tirs nourris d'armes ont été attendus pendant toute la journée d'hier dans la zone, affirmé des sources locales. Les forces loyalistes déclarent avoir déjà récupéré 7 localités qui étaient contrôlées par la milice Codeco. Un enfant est mort pendant les affrontements et plusieurs maisons incendiées. On signale également les mouvements des populations dans la région vers les villages de Jiba. Les porte-parole de l'armée en Ituri indiquent que ces opérations baptisées chasse au chacal vont se poursuivre pour mettre hors d'état de nuire ces hommes armés accusés de commettre de graves violations des droits de l'homme. Les derniers cas, c'est le meurtre de 46 déplacés, dont 23 enfants, au site de Lala et des dégâts matériels importants. La société civile de l'Ituri demande à l'armée d'étendre ses opérations dans tous les territoires de Djougou et de maintenir la pression militaire sur ces renégats pour imposer la paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Restons en Ituri. La nouvelle société civile et des organisations de défense des droits de l'homme du territoire de Mambasa exigent l'implantation d'un centre de démobilisation et désarmement dans cette entité. Dans une correspondance adressée jeudi au coordonnateur national de cette structure, ces organisations parlent d'environ 1000 miliciens des groupes armés Mai Mai, dont une dizaine d'enfants ont résolu de déposer les armes et d'adhérer au programme désarmement. Ces miliciens issus de 9 mouvements insurrectionnels se sont déjà regroupés à Kasoko dans la chefferie de Babila Babombi, ajoute-t-elle. Cependant, ils ne sont pas pris en charge et vivent sur le dos de la population qui est soumise à des contributions forcées. John Vuleverio, l'un de ces activistes, lance ici un appel aux autorités compétentes. Il est au micro de Martial Kiza.
Exiger aux autorités compétentes d'implanter un centre de désarmement et de démobilisation dans les territoires de Mambasa. Mais ce qui étonne est qu'ils ne sont pris à charge par les autorités. Du coup, ce qu'on est en train d'insister dans les villages, notamment au niveau de Biakato et ses environs, il y a des traitements que nous pouvons également qualifier de tracasseries qui se vivent au désavantage de la population. Imaginez-vous, aujourd'hui, la population de contribuer du jour au jour pour la survie de ces éléments qui se sont déjà rendus. Pourtant, plus ou moins 994 autres éléments issus des 9 groupes armés œuvrant dans la chefferie de Bakwanza et la chefferie de Babila Babombi sont prêts à rendre et aussi accepter et à répondre à la demande de Monsieur le Président de la République dans le cadre de ce programme de démobilisation.
De son côté, le bureau provincial du DDRCS en Ituri s'est réservé de tout commentaire à ce sujet. Je vous l'ai dit dans le sommaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé son inquiétude à la suite de la dégradation des conditions de création des entreprises en RDC. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, lors de la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres de vendredi 16 juin, faisant suite aux recommandations qu'il avait formulées au terme de sa communication sur la nécessité pour le gouvernement de travailler pour l'amélioration du climat des affaires et sur base des informations en sa possession. Le président de la République s'est appesanti de nouveau sur la situation inquiétante du guichet unique de création d'entreprises, a rapporté Patrick Mouyaya. Plus de détails avec Alain Hiron-Mouchinj.
Selon le compte-rendu, cette entité créée pour faciliter l'installation des investisseurs en RDC et la formalisation des activités des opérateurs économiques connaît malheureusement depuis un certain temps un dysfonctionnement de son service caractérisé notamment par le non-délai d'attente et la discontinuité du service. Le président de la République a donné des orientations pour une solution rapide. Au vu de la gravité de la situation, le président de la République a demandé au Premier ministre de convoquer autour de lui les principales parties prenantes pour, à court terme, solutionner les difficultés de financement, prise en charge des agents et mutualisation des services intervenants qui se posent. À moyen terme, il faudra procéder parallèlement à une évaluation de la réforme du guichet unique devant permettre d'identifier les pistes susceptibles de favoriser l'optimisation de l'accomplissement des formalités des entreprises, a ajouté Patrick Mouyaya. La cellule du climat des affaires devra être mise à contribution, a conclu le porte-parole du gouvernement.
Et puis, à 6 mois de la tenue des élections, longtemps silencieux, l'ancien président Joseph Kabila renoue le contact avec sa famille politique au cours d'une rencontre vendredi avec les cadres du Front commun pour le Congo, FCC, sa plateforme politique. Il a affirmé qu'il n'a pas pris sa retraite et n'a jamais abandonné la politique. Joseph Kabila a aussi rappelé que lui et sa famille politique ne participeront à ce processus que si les conditions pour tenir des bonnes élections sont réunies. Aussi a-t-il appelé les cadres du FCC à résister, à se mobiliser et à mobiliser la population contre ce qu'il a appelé la dictature qui s'installe. On écoute à ce sujet Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui a participé à cette rencontre. Il est au micro d'Alain Irung.
L'objectif de cette réunion, il a été clair, c'était un, rassurer tout le monde qu'il est là et que ceux qui pensent que son silence signifiait sa retraite politique, il s'était en train de se tromper. Il s'est donné simplement un temps face à ce coup d'état institutionnel pour que finalement le peuple ait ce droit de juger et d'évaluer les uns et les autres dans leur comportement. Il a donc brossé la situation politique du pays, la situation que traverse le pays. Il a déploré le fait que malheureusement, cette instabilité institutionnelle imposée par son successeur, Félix Tshisekedi, a eu des effets très très négatifs sur le plan de la politique. Aujourd'hui, on voit un processus électoral qui est conduit par une seule famille politique, la famille du chef de l'État, qui ne fait pas participer ni l'opposition ni la société civile. Sur le plan de la sécurité, là, c'est la catastrophe.
Rendons-nous dans la province du Maniema. Le bureau des inspecteurs des droits de l'homme demande au directeur provincial de l'Office des routes et celui de l'Office des voies de desserte agricole de justifier à la population du Maniema les fonds alloués par le FONER pour la réhabilitation des routes d'intérêt national, provincial et de desserte agricole. Le coordonnateur provincial du bureau des inspecteurs des droits de l'homme l'a dit hier à la presse. Crispin Muyololo justifie sa position par le fait que, selon lui, depuis le décaissement de ces fonds, rien de spécial n'est fait sur terrain. Ces propos ont été recueillis par Florence Kiza.
Il y a de cela presque une année depuis que le financement du gouvernement national à travers le FONER a été effectué. Malheureusement, nous ne constatons pas une évolution sur terrain. Et vous savez que c'est la route qui développe une entité. L'office de route doit être clair. Aujourd'hui, la saison sèche tend vers sa fin, mais rien n'est exécuté. Plus de 2 millions de dollars logés dans son compte. On nous a confirmé ça les jours de lancement des travaux qu'on va nous réhabiliter. Dans le cadre du contrôle citoyen, nous trouvons que l'implication du président de la République est plus que nécessaire pour sauver la province du Maniema qui est en train de connaître maintenant sa descente aux enfers sur le plan économique. Nous constatons que même le FONER ne fournit aucune explication par rapport à ces retards. Et le gouvernement provincial qui aurait dû nous aider à dénoncer aussi, croise les bras du débâcle occasionné par l'Office des voies des dessertes agricoles en sigle OVD qui a reçu 315 000 dollars en 2021. Nous avons reçu des financements, mais rien n'a été exécuté.
À Kinshasa, la Fondation Godard Motemona a remis un lot important des bancs au Collège Saint-Étienne, situé à la 3e rue Limité Industrielle. Le président de cette fondation, Godard Motemona, qui est également autorité morale du parti En Marche, a dit poser ce geste pour soutenir la gratuité de l'enseignement au pays. C'est un reportage d'Enoch Matondo-Vuizolo.
Le président de la Fondation Godard Motemona, autorité morale du parti politique En Marche pour le Progrès, a également primé le meilleur lauréat de l'examen d'État de cette école pour l'année scolaire 2021-2022. Pour Godard Motemona, ce geste vise à stimuler le goût d'émulation auprès des élèves de cette école, mais également d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le secteur de l'éducation du pays, particulièrement la gratuité de l'enseignement.
On est venu remettre les bancs, primer les élèves et inaugurer les latrines. Remettre des bancs, c'est pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de gratuité de l'école. Pour ne pas primer les élèves, pour qu'ils soient motivés et qu'ils soient meilleurs, vous devez travailler, vous devez vous distinguer.
Par ailleurs, la Fondation Godard Motemona a également réhabilité les latrines du Collège Saint-Étienne. L'occasion faisant le larron, les élèves de cette école ont profité pour présenter leur doléance auprès du président de la Fondation Godard Motemona, qui est également vice-ministre des Mines, notamment doté l'école d'une bibliothèque, d'une salle informatique et la connexion Internet d'un laboratoire moderne de géographie, physique, chimie et des sciences naturelles.
Actualité internationale.
D'abord au Soudan, une nouvelle tentative de cessez-le-feu a débuté ce dimanche. Raid conclu entre l'armée et les paramilitaires qui se livrent une guerre sans merci depuis mi-avril. Cette trêve doit durer 72 heures et permettre l'acheminement d'aide humanitaire dans tout le pays. Elle suscite néanmoins peu d'espoir car les précédentes n'ont pas été respectées. Au Mali, ce dimanche, les électeurs et électrices maliens sont appelés à se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution. C'est la première étape d'importance qui doit mener à la fin de la transition prévue pour février prochain. La constitution actuellement en vigueur date de 1992 et a résisté à plusieurs tentatives de modification.
L'invité.
Nous sommes à quelques mois de la présidentielle en RDC. Une cinquantaine de journalistes, dont 25 hommes et femmes, ont suivi hier à Mbandaka une formation sur les questions relatives à l'éducation électorale. C'est la 4e conférence organisée chaque 3 mois par l'Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur, AMASEC, avec l'appui de ses partenaires. Pour en parler, nous recevons le secrétaire exécutif de l'AMASEC, Peter Gbiako, s'entretient avec Paul-Richard Malengela.
Monsieur Peter Gbiako, bonjour.
Bonjour, chers journalistes.
Quel a été l'objet de cette conférence?
Oui, l'objectif de cette 4e et dernière conférence de la première année du projet était de sensibiliser les journalistes qui vont aller tout diffuser les informations et sensibiliser la communauté sur éducation électorale, notamment les calendriers électoraux. Comme vous savez, la communauté n'a toujours pas les informations fiables et concernant les élections, même les dépôts de candidatures pour la députation nationale. Et on avait vu que d'abord, on puisse réunir 50 journalistes venus d'environ 20 chaînes de radio locales. Et ces journalistes qui ont reçu les bonnes informations auprès de la CENI et de la société civile vont sensibiliser à l'entour la communauté.
Si on pouvait faire un petit bilan, quel a été l'impact de ces conférences que vous avez organisées à l'intention des journalistes des maisons de presse locales?
L'impact, c'est les changements progressifs des comportements vis-à-vis au processus électoral, parce que certaines personnes étaient déjà réticentes, surtout avec la qualité de la nouvelle carte électorale, et ces personnes sont en train d'être sensibilisées que la CENI va donner des duplicatas et ça se suivra par la carte d'identité qui sera délivrée par l'ONIP. Et les journalistes sont très contents que chaque 3 mois on les sensibilise sur différentes thématiques et souhaitent que les projets puissent continuer. Même la communauté a toujours l'obligation de suivre, c'est un droit, le droit de suivre les informations à travers les radios sur les élections, et la communauté est en train de comprendre ce qui se passe, surtout quand les émissions sont animées en Lingala, et les journalistes sont en train train de faire ce travail-là. Il y a 8 radios, mais avec des conférences, nous invitons souvent 20 radios et au moins 2 journalistes, des jeunes journalistes, femmes et hommes, à travers les radios. Et vous voyez l'impact sur le terrain que la communauté est sensibilisée sur les processus électoraux et autres thématiques.
Quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés?
Quelques difficultés au départ étaient liées à l'administration publique. Comme vous savez, tout projet sur le terrain, vous devez être en ordre avec les services de l'État. D'abord, il fallait que la MASEC puisse régulariser les dossiers avec les services de l'État, notamment la CNCS, INPP, DGI et autres. Présentement, nous sommes en ordre avec ces services et au départ, c'était un peu difficile pour s'adapter et aussi quelques difficultés étaient liées à la communication. Notre souci était que les journalistes qui sont des radios de Lukolela, des micros puissent venir, mais contrainte aussi était financière du fait que ce n'était pas budgétisé que les confrères journalistes puissent quitter les territoires pour venir dans le centre-ville. C'est ce que nous sommes en train d'échanger avec les partenaires que prochainement nous puissions commencer aussi à inviter les journalistes de l'intérieur.
Alors nous sommes à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous attendez de l'espace médiatique de l'Équateur pour arriver aussi à embarquer la population à s'engager dans le sens de la réussite des élections?
Pour ce point, nous sommes en train d'échanger avec nos différents partenaires à travers Internews, que nous puissions continuer la formation, sensibilisation des journalistes, parce qu'avec les matières que les journalistes reçoivent lors des conférences, ça leur permet d'améliorer la qualité des émissions qu'ils sont en train de produire et diffuser à travers les radios. Et la sensibilisation est toujours importante, même la formation. C'est-à-dire la MASEC est en train d'échanger avec les partenaires Internews pour que nous puissions ouvrir aussi des brèches vers d'autres radios en ce qui concerne la sensibilisation.
Peter Gbiago, merci.
Merci beaucoup.
Le secrétaire exécutif de l'Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur répondait aux questions de Paul-Richard Malengela. C'est la fin de ce journal, supervisé et coordonné par Alain Rungushinj, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.